Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Stéphanie Rock, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois grands titres de ce samedi.
La France affronte sa bête noire, le Danemark. Match à suivre sur RMC dès 17h.
Plus de 3000 personnes réunies hier soir à Tonneins à l'occasion d'une marche blanche en hommage à la jeune Vanessa. Et coup de filet, dans le sud-ouest, 4 personnes mises en examen pour avoir vandalisé des antennes 5G.
La matinale week-end.
Et on démarre avec la Coupe du Monde, puisque l'événement, ce sont les Bleus opposés au Danemark. Qualification en vue pour les huitièmes de finale.
Oui, en cas de victoire, les Bleus auraient la certitude de jouer les huitièmes de finale. Mais la confrontation récente face au Danemark n'a pas laissé que de bons souvenirs à l'équipe de France. Fabrice Hawkins, vous êtes notre envoyé spécial au Qatar. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Malgré cette belle victoire face à l'Australie, Fabrice, les Français n'arrivent pas non plus dans un fauteuil face aux Danois. Quels sont les enjeux de cette rencontre ?
Trois enjeux, triple enjeu pour ce match. D'abord la qualification, une victoire et la France jouera les huitièmes de finale pour la troisième fois de suite. Un succès permettrait aussi d'assurer la première place et donc de faire tourner lors du troisième match contre la Tunisie, reposer ceux qui ont des petites gênes ou alors donner plus de temps de jeu à des joueurs qui vont découvrir la Coupe du Monde. Enfin, un succès contre le Danemark ferait aussi du bien psychologiquement. La France reste sur un match nul en 2018 et 2 défaites sur les 6 derniers mois. Une victoire contre les Danois permettrait de gagner en confiance.
Alors Fabrice, vous parliez de faire tourner à l'instant. Didier Deschamps a prévu a priori quelques ajustements pour la rencontre. À quoi pourrait ressembler ce 11 titulaire cet après-midi ?
Eh bien, pour le schéma tactique, on ne change pas 4-3-3, mais effectivement, 3 changements sont attendus en défense. Là, le premier, c'est Lucas Hernandez qui s'est blessé contre l'Australie, qui va donc céder sa place à son frère Théo Hernandez, aligné au poste d'arrière gauche. Raphaël Varane devrait faire son grand retour en défense centrale aux côtés de Dayot Upamecano. Et puis, enfin, Benjamin Pavard, décevant mardi contre l'Australie, pourrait s'asseoir sur le banc. C'est Jules Koundé, le défenseur du FC Barcelone, qui devrait faire ses grands débuts au Mondial. Pour le reste, ça ne change pas. Mbappé, Dembélé et Giroud vont commencer.
Merci beaucoup Fabrice, on vous retrouve dans le journal de 8h. Et vous le disiez à l'instant, Olivier Giroud sera une nouvelle fois le fer de lance de cette attaque tricolore. Giroud qui va retrouver sur son chemin le défenseur et capitaine du Danemark, Simon Kjær. Les deux hommes évoluent ensemble au Milan AC. Un atout précieux pour le sélectionneur danois Kasper Hjulmand.
Sur le terrain, Giroud montre qu'il est sans doute meilleur qu'il ne l'a été avant. Il est très dangereux. Évidemment, notre défenseur Simon Kjær le connaît très bien. Nous avons parlé de petits détails. Bien sûr, il peut bien parler de lui pendant longtemps. J'espère que ce sera notre avantage. Nous verrons bien.
It's an adventure. Let's see.
Et vous serez nombreux à vivre ce match, bien sûr, en direct sur RMC 17h tout à l'heure. Des supporters nombreux à applaudir Olivier Giroud et l'équipe de France.
Comme dans les clubs de foot amateurs, les éducateurs ont prévu d'organiser une retransmission du match pour les équipes des jeunes. Illustration en Gironde avec Elena Worms.
Au Racing Club de Bordeaux, les féminines seront évidemment devant le deuxième match des Bleus.
Je trouve ça bien que le club organise les matchs en retransmission pour qu'on puisse tous partager ça entre amis et le club comme notre famille.
C'est convivial. C'est disposé sur un écran géant et puis on regarde. Enfin, il y a une bonne ambiance.
Moi, au début, je pensais que la France allait vraiment perdre tous ses matchs. Sauf qu'elle a fait un très bon début et je suis hyper contente.
Et on ne supporte pas toujours la même équipe.
Chaque match, on s'envoie les scores, on critique nos équipes.
Mais pour certaines, c'est difficile d'accepter que la compétition ait lieu au Qatar.
Je trouve que celle-là, elle a pas respecté vraiment les valeurs de la Coupe du Monde. C'est un sport que je pratique depuis très longtemps et la Coupe du Monde, c'est quelque chose quand même d'historique que tout le monde va suivre. Mais comme ça reste quand même compliqué pour moi de la boycotter, c'est que je trouve des alternatives pour la suivre. J'essaie de vraiment renverser le moins possible d'argent ou de crédibilité ou quoi que ce soit à cette Coupe du Monde parce que je trouve que c'est scandaleux.
Le club est prêt à adapter ses horaires de match et d'activité pour suivre les Bleus.
Et le coup d'envoi, c'est à vivre à 17h sur RMC. Les résultats d'hier, victoire de l'Iran face au Pays de Galles 2-0. Le Qatar, première sélection éliminée de la compétition, qui a été battue 3-1 par le Sénégal. Et puis 2 matchs nuls, Pays-Bas-Équateur 1 partout et Angleterre-États-Unis 0-0.
RMC 7h04. Le reste de l'actualité, Stéphane Jeunesse, c'est cette émotion très vive hier à Tonneins, une semaine après le meurtre de la jeune Vanessa.
La ville du Lot-et-Garonne réunie pour un dernier hommage à l'adolescente de 14 ans. Plus de 3000 personnes ont participé à une messe et une marche blanche. La mère de Vanessa, son petit frère et sa sœur cadette ouvraient le cortège, tous vêtus de blanc. Le reportage à Tonneins de notre envoyé spécial Jean-Wilfried Forquès.
Dans le cortège compact et silencieux qui s'étend sur près d'un kilomètre, il y a Gwen et Thierry, parents d'élèves habitants de Tonneins, très émus par cette mobilisation.
C'est vraiment impressionnant. La commune est mobilisée, est touchée.
C'est une petite ville et on a l'impression que toute la ville est présente, donc ça fait chaud au cœur.
Beaucoup de collégiens sont là, comme Evan, 13 ans, très affecté par la perte d'une copine.
Ma famille a beaucoup pleuré, même moi, hein. Et tout le monde a pleuré parce qu'on est triste.
Plutôt, ils étaient plusieurs centaines à participer à la cérémonie religieuse. Jean-Pierre est venu du département du Gers. Pour lui, c'était nécessaire. Il était là pour la mémoire de Vanessa.
Ça m'a énormément frappé. Ça ne devrait pas se produire. C'est horrifiant. C'est affreux. J'ai cru bon faire mon devoir de venir.
Au terme de ces deux moments poignants, la maman de Vanessa remerciait tous les participants. Merci de nous accompagner, a-t-elle souligné en espagnol, les larmes aux yeux et des sanglots dans la voix.
Le reportage de Jean-Wilfried Forquès à Tonneins pour RMC. En bref, un mort dans l'incendie d'un immeuble à Nice hier soir. Une autre personne gravement blessée. Le feu a pris au quatrième étage d'une tour du quartier Nice-Nord.
RMC 7h06.
Encore une nuit agitée à l'Assemblée nationale avec en point d'orgue l'activation à nouveau de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par Elisabeth Borne.
Sixième fois en un mois que la Première ministre engage la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de budget de la Sécurité sociale en nouvelle lecture. La France insoumise, elle, a immédiatement déposé une nouvelle motion de censure. L'actualité politique qui est aussi judiciaire ce matin puisque la justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Au cœur des investigations, les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le cabinet de conseil McKinsey. Écoutez la réaction du président interrogé sur le sujet hier.
C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges. Ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose et que toute la lumière soit faite et que la transparence soit faite.
Et sur le front du Covid, Emmanuel Macron s'en remet aux scientifiques pour la réintégration des personnels soignants non vaccinés. Et c'est alors que les chiffres de contamination repartent à l'hausse, plus 49 000 nouveaux cas hier. C'est 31% de plus que la semaine dernière.
Tout à l'heure, le député Olivier Servat, qui a remis le sujet sur la table à l'Assemblée, sera avec nous à 8h10. Qu'en pensez-vous, 32-16, est-ce qu'il faut réintégrer le personnel soignant non vacciné ? Il est 7h07. On en vient à cette enquête minutieuse qui a permis la mise en examen de 4 personnes.
Elles sont soupçonnées d'avoir vandalisé des antennes relais dans la région toulousaine, des antennes 4G. Et les actes de vandalisme de ce type se multiplient et sont monnaie courante dans le pays. Précision signée Guillaume Bien.
Ils ont pour la plupart une trentaine d'années et font partie de la mouvance contestataire multiforme. Gilets jaunes, anti-vaccins, anti-pass sanitaire. 3 femmes et un homme interrogés par les gendarmes pendant 96 heures à l'issue d'une minutieuse enquête pour les retrouver. C'est à partir d'une voiture filmée par une caméra de vidéosurveillance que les enquêteurs ont de fil en aiguille identifié les suspects. Ces activistes sont soupçonnés d'avoir détruit par incendie une antenne 5G le 30 mars dernier à Carbonne, au sud de Toulouse. Ils auraient également mis le feu à des radars automatiques avec à chaque fois une même signature. Le peuple inscrit sur le sol. En garde à vue, les suspects ont notamment reconnu avoir participé à la destruction de l'antenne 5G. Présentés à un juge d'instruction de Toulouse, ils ont tous les 4 été mis en examen et laissés libres sous contrôle judiciaire en attendant leur futur procès.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'RMC. Merci beaucoup Stéphane Jeunesse. À tout à l'heure, 7h30 pour une nouvelle dose d'infos, mais aussi de sport. La grande actualité du jour, c'est ce match ce soir, 17h France-Danemark, le deuxième pour les Bleus. Et vous êtes déjà nombreux à avoir impatience.
Eh oui, Mathieu Rally qui dit bonjour Mathieu et toute l'équipe.
Salut Rally.
Moi je prends l'équipe de France et elle va aller jusqu'au bout de la compétition. Mais en plus, créer de nouveau la surprise et battre les plus grandes nations. Aujourd'hui, non seulement ils vont gagner contre le Danemark, et ils vont aller plus loin. Pourquoi ? Parce que c'est mon anniversaire. J'ai fêté mes 43 ans et je compte bien sur l'équipe de France pour fêter ça. Bon anniversaire Rally. rallye en tout
joyeux
cas.
Joyeux anniversaire rallye, on espère que la journée sera bonne et donc cette soirée aussi. Est-ce que vous, vous voyez les Bleus se qualifier dès ce soir pour les huitièmes? 32-16, on en discute avec vous. Mais pour l'heure, on va parler de tout ce que vous avez reçu cette semaine et qui est de plus en plus insupportable.
Et oui, des dizaines tout au long de la semaine de mails, de SMS, de flyers. Tout est bon pour vous pousser à acheter lors du Black Friday.
Est-ce qu'on consomme trop en France? La question est toute simple et c'est à vous de nous dire dans deux minutes.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
RMC, 7h12, même la SNCF. Même la SNCF y a participé avec des cartes d'abonnement à prix cassé. Mais où, jusqu'où ira la folie du Black Friday?
RMC, à vous de nous dire.
Bonjour Margot Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour Margot.
Bonjour à tous.
On vous interroge au 32-16 et sur nos réseaux sociaux. Est-ce qu'on consomme trop?
Et on vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans achat. Journée symbolique, pas très connue en France, mais avec un objectif radical. Boycotter pendant une journée les magasins, pas d'achat pendant 24 heures. Donc, et à la place, on prend le temps de réfléchir et de s'interroger sur nos habitudes de consommation, car on l'oublie souvent, mais chaque achat a un impact social, économique et écologique. Rappelons ces chiffres, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources.
Alors, c'est aujourd'hui, Journée mondiale sans achat, c'est pas au hasard, c'est chaque dernier samedi du mois de novembre, au lendemain donc du Black Friday, la grande fête de la consommation.
Oui, car qui dit Black Friday dit promo qui donne envie de faire flamber notre carte bleue. Chaque année, ça commence de plus en plus tôt, ça dure de plus en plus longtemps, et les marque redouble d'attention pour vous tenter. Je suis sûre que vous avez reçu des dizaines de mails et de SMS pour vous inciter à faire des emplettes ces derniers jours. Moins 30% sur une paire de chaussures, moins 40% sur un écran plat. Cette année, près de 2 Français sur 3 ont prévu de profiter de ces affaires, avec un budget moyen de 256 €, 20 euros de plus que l'année dernière. Mais pour Vincent Drezet, porte-parole d'Attaque, le Black Friday, bien, c'est une aberration pour la planète.
On va assister donc à beaucoup de consommation de biens qu'ils font, qui ne vont pas forcément servir longtemps. C'est quand même un paroxysme de la société de consommation. En fait, c'est une surconsommation. Or, la surconsommation, elle nécessite une surproduction. La surproduction, elle puise dans des ressources. Et ce modèle-là, aujourd'hui, il est nuisible.
Et le symbole parmi tous les symboles de cette surconsommation, c'est le monde de la mode et du textile.
Oui, c'est le troisième secteur le plus consommateur en eau. Ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. Sauf que des vêtements, on en produit de plus en plus. Et pour preuve, les marques de vêtements ont normalement 2 grandes collections dans l'année, la mode hiver et celle de l'été. Mais dans certaines enseignes, les collections changent chaque semaine. Et le problème, c'est que près de 70% de notre garde-robe dort dans nos armoires et ne sert donc à rien, mais on continue à acheter un nouveau t-shirt ou un nouveau jean. Et je ne vous parle pas du gaspillage alimentaire, autre symbole de la surconsommation. Un Français jette chaque année en moyenne 140 kilos de nourriture à la poubelle et produit 354 kilos d'ordures.
Alors à vous de nous dire, est-ce que vous trouvez qu'on consomme trop?
Eh bien sur Twitter ce matin, vous avez répondu oui à 76%, comme Christian qui nous dit on surconsomme en permanence alors qu'on se lamente sur la pollution, ou encore comme Natéric qui s'interroge pourquoi laisse-t-on les entreprises produire autant. Francine, elle pense qu'on consomme surtout très mal. Les Français achètent pas cher car ils n'ont pas d'argent. C'est la qualité des produits qu'il faut changer.
Tiens, Patrick nous attend depuis Lyon. Il est avec nous au téléphone au 32-16. Des réactions aussi sur le compte Facebook, les matins RMC.
Oui,
RMC.
Il y a Émilie qui dit « Journée sans achat, c'est utopique. Le Black Friday est générateur d'emplois, par exemple. »
Merci Peggy, merci Margot et bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Bonjour à vous.
Lyon, je le disais. Patrick, on consomme trop?
Oui, bien sûr.
Vous y compris alors?
On consomme en fait inutilement. En fait. On a des achats compulsifs, des achats qui n'ont pas de raison d'être. Et en fait, on est dans une société consumériste qui nous oblige à exister parce qu'on consomme.
Ça vous arrive grave. Aussi, Patrick, vous vous laissez prendre?
Non.
Jamais?
Non, c'est fini ça. C'est fini ça.
C'est-à-dire que vous n'achetez rien par plaisir?
Non, voilà, ouais.
Qu'est-ce exactement. Que vous avez mis en place pour échapper à cette surconsommation?
Eh ben, j'ai mis en place une philosophie de vie et je me dis que ce dont j'ai besoin, je consomme, mais ce dont j'ai pas besoin, j'en consomme pas. Voilà quoi. C'est pour moi une. Quelque chose qui doit, comment dirais-je, prendre dans l'esprit des gens et voilà quoi.
Alors, c'est pas fait, simplement pour faire des économies en fait.
Non, c'est pas une question d'économie. Ouais. Hein. Je gagne bien ma vie, donc bon.
C'est un état d'esprit.
C'est pas un souci à ce niveau-là quoi, mais c'est simplement que voilà quoi. J'ai pas besoin d'avoir une télé qui fait, je sais pas.
Et de vous racheter trois pulls, deux t-shirts tous les mois, c'est un peu ce que nous écrit aussi Sylvain. J'essaie de faire attention. On n'achète que de la seconde main. Pour mon enfant de 2 ans, on a un potager, on fait du compost pour diminuer nos déchets. Je reviens sur les vêtements. Est-ce que vous savez combien de vêtements sont produits chaque année? 100 milliards.
Les vêtements, en fait.
100 milliards.
En fait, les vêtements, il y a une application quoi, qui s'appelle Vintage, un truc comme ça. Quoi,
Vintage, revendre les vêtements. Ouais.
Bah moi, je peux même pas y aller quoi, parce qu'en fait mes vêtements je les use jusqu'à la corde.
Jusqu'à
quoi,
la corde. Merci Patrick.
Je vous en prie.
Et bonne journée au chaud avec vos vieux pulls. Salut Patrick. C'est encore allez, ceux qui tiennent le plus chaud. Salut. Il est 7h18.
À suivre dans la matinale week-end.
Vaut-il mieux acheter plutôt que louer? Et au bout de combien d'années est-ce rentable?
C'est une question qu'on se pose souvent. Eh bien le coup de main IMO répond aux questions auxquelles vous vous interrogez, où vous avez besoin de réponses et surtout de conseils. C'est le coup de main IMO dans une minute sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Vous êtes sur RMC, samedi 26 novembre. Soyez les bienvenus. Pour vous accompagner jusqu'à 7h30, il est là. Le meilleur d'Arnaud Demange pour rire et sourire de l'actualité, c'est tous les jours Demange, du lundi au vendredi. Et le best-of, c'est le samedi et le dimanche. Mais d'abord, acheter ou louer, qu'est-ce qui est le plus rentable ?
Le coup de main immobilier.
C'est la question que tout le monde se pose. Avec l'inflation, la hausse de la taxe foncière, des assurances, des charges, vaut-il mieux rester locataire ou tenter de devenir propriétaire ?
Eh bien, Jean-Louis Deloro vous livre ce matin ses meilleurs conseils. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Mathieu.
Alors, faut-il louer ou acheter, rester locataire ou devenir propriétaire?
Alors, payer un loyer, c'est jeter son argent par les fenêtres. Qui n'a jamais entendu cette expression? Et pourtant, c'est pas si simple. Mais une nouvelle étude de CAFPI nous permet de nous faire une idée. Les équipes du courtier ont donc cherché à savoir au bout de combien de temps un achat coûtait moins cher qu'un loyer. Pour le savoir, ils ont donc regardé dans les grandes villes ce que coûtait la location d'un appartement de 60 mètres carrés. Ils ont ensuite comparé ça au coût d'être propriétaire. Il y a de nombreux coûts, c'est-à-dire les intérêts que vous payez pour un crédit immobilier sur 25 ans. On y ajoute les frais de notaire à l'achat et la taxe foncière, bien sûr. Alors oui, ça fait beaucoup. Et taxe foncière qu'on paye que quand on est propriétaire. Donc toujours pour un même logement de 60 mètres carrés. Alors, la grande ville où il faut attendre le plus avant que ce soit rentable, c'est Bordeaux. Vous devez patienter 8 ans avant qu'un achat revienne moins cher qu'une location, notamment parce que dans la préfecture de Gironde, les prix à l'achat sont chers, c'est autour de 4 900 € par mètre carré, et la taxe foncière, elle n'est pas donnée non plus. Juste derrière, on retrouve Paris, où il faut plus de 7 ans, tout comme à Nantes ou Lyon, et il y a Rennes juste derrière.
Alors, qui s'en sort le mieux? Dans quelle ville est-ce que c'est le plus vite rentable d'acheter plutôt que de rester locataire?
Eh bien, c'est Reims, la grande gagnante. Il faut seulement 4 ans et 2 mois pour s'y retrouver. Et c'est moins de 5 ans aussi pour des villes comme Lille, Marseille ou Montpellier.
Et il y a autre chose qui ressort de cette étude, Jean-Louis, c'est que le délai avant que ce soit rentable de devenir propriétaire a bondi en un an.
Oui, ça a bondi et ça va très très vite, beaucoup plus qu'on ne le pense. CAFPI avait réalisé la même étude il y a un an et le délai pour que ça devienne rentable a tout simplement doublé. Alors c'est une moyenne, mais ça a doublé dans ces grandes communes. C'est pourquoi si vous avez un projet immobilier, mieux vaut ne pas tarder avant de se lancer. C'est notamment ce que nous explique Caroline Arnoux, qui est directrice du développement de CAFPI.
Très clairement, il faut acheter maintenant, même si les taux ont augmenté, même si la taxe foncière, les prix de l'immobilier ont augmenté, ça reste encore rentable d'acheter plutôt que de louer, d'autant plus que les loyers sont indexés sur l'inflation. Il faut le faire maintenant, par contre, parce que les taux continuent à augmenter. Il faut bien évidemment rappeler que l'immobilier reste une valeur refuge. Investir dans son habitation, ça reste quelque chose de positif et d'indispensable.
Alors acheter, c'est bien, mais par contre, il faut quand même rappeler qu'être locataire, ça présente aussi des avantages.
Oui.
Bah oui, déjà, vous n'avez pas besoin de payer certaines charges, les travaux ou les mauvaises surprises qui ne manquent pas d'arriver. Ensuite, la grande force de la location, c'est vous êtes mobile, vous déménagez quand vous voulez. Alors que quand on est propriétaire et qu'on vient de payer des frais de notaire, bah, faut compenser en restant quelques années. Mon conseil, c'est de toujours essayer de faire les calculs, même si c'est pas évident, mais tout du moins à la louche.
Oui, bah, c'est vrai que ça donne une première indication. Merci beaucoup Jean-Louis, le coup de main IMO que vous retrouvez sur rmc.fr et en podcast sur l'appli RMC. 7h23.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Vous aimez l'actualité, vous aimez sourire, vous aimez rire, vous aimez vous détendre. Eh bien voilà, l'équation est résolue chaque matin dans Apolline Matin, 7h20, 8h20. Arnaud Demanche est là pour rire et sourire de l'actualité. Il est avec nous pour le meilleur de la semaine, le samedi et le dimanche. Est-ce qu'on va manquer de lumière cette hiver? Les risques de coupure ont illuminé la semaine d'Arnaud Demanche?
On redoute ça parce qu'on est douillet. Voilà, mais en Tchétchénie ou en Sibérie, ils le vivraient vachement mieux que nous, hein. Les mecs, ils se baignent sous la glace, ils boivent du gasoil au petit-déj, ils se battent à main nue avec des ours pour rigoler. Tu leur annonces qu'il y aura moins de chauffage. Ils réagissent pas comme nous, clairement. On devrait s'en inspirer. Alors, il y a bien une solution à laquelle personne n'a pensé, que je soumets à votre approbation. L'hibernation générale. C'est-à-dire que le gouvernement nous file un puissant sédatif. On dort tous du 1er janvier au 3 mars. Ça consomme pas d'électricité et on est super en forme pour le reste de 2023. Personne a envie de bosser en janvier. Non, autour de cette table. Apolline, sérieux. Est-ce que vous avez envie d'interviewer Stanislas Guérini ou Sébastien Chenu un matin de janvier? Non, soyez honnête.
Un matin de janvier.
Mais oui. À chaque fois que j'entends parler d'ailleurs de possibles coupures d'électricité, je pense à ces pauvres gens qui sont au chevet d'un parent malade à l'hôpital. Écoute, papy, je voulais te dire un truc. Je pense que... Papy, il est mort? Papy? Ah putain, non. C'était le courant. T'inquiète pas, papy, ils ont basculé sur leur générateur. Donc, je voulais te dire, concernant l'héritage, moi je crois que c'est mieux si... Oh. Non mais là c'est chiant là à la fin, on sait pas qui va flancher le premier, si c'est le DF ou si c'est papy.
Arnaud Demange qui nous promet un bel hiver, toujours à l'écoute d'RMC. Allez, dans un instant on poursuit le débat, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Sur notre compte Twitter vous répondez oui à 64%. Après le journal de 8h, le député Olivier Servat qui porte ce combat sera avec nous. Et dans le journal de 7h30, retour à l'Assemblée nationale où... La nuit dernière a à nouveau été très tendue. Ambiance à suivre dans 2 minutes.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Stéphanie Rock, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois grands titres de ce samedi.
La réintégration des soignants, objet de vives tensions au sein de l'Assemblée nationale, mais pas seulement. Et la guerre en Ukraine, avec le message pas vraiment rassurant de Vladimir Poutine, maire de soldats russes, il ne lâchera rien.
La Coupe du Monde et la France qui joue le Danemark cet après-midi. Objectif, une qualification dès aujourd'hui pour les huitièmes de finale.
C'est l'une des questions qui fait encore l'actualité ce matin. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés au Covid-19?
Et si on se pose cette question, Mathieu, c'est parce que les contaminations repartent à la hausse. Plus 49 000 nouveaux cas hier, c'est plus de 31% par rapport à la semaine dernière. Et surtout parce que la France Insoumise propose cette réintégration des personnels non vaccinés. Le ministre de la Santé, François Braun, reste inflexible, c'est non. Mais Emmanuel Macron est moins catégorique, Cyprien Pézeril.
Il serait 4 000 soignants suspendus car non vaccinés. Et pour Emmanuel Macron, c'est aux scientifiques de décider de leur sort.
Il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si des scientifiques aujourd'hui nous disent que c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique.
Le chef de l'État entrouvre donc une porte à la réintégration. Pourtant, plutôt son ministre de la Santé, François Braun, opposait un non catégorique.
Remettre en cause la vaccination, c'est mettre notre pays en danger. Et puis, quand on est soignant, on a une éthique, c'est de protéger les personnes les plus fragiles que l'on nous confie.
Ce sont les élus d'outre-mer qui réclament le plus fermement un retour. Argument principal pour le député LFI de Martinique, Jean-Philippe Nilor, les hôpitaux manquent de bras.
Chez nous, ceux qui ont un schéma vaccinal complet, c'est moins de 20%. Comment l'hôpital peut fonctionner? Est-ce que dans un autre territoire de l'Hexagone, on aurait accepté des situations sanitaires telles que celle-là? Les gens sont en train de mourir dans des brancards chez nous.
La France, un des derniers pays à maintenir l'obligation, abandonnée au Royaume-Uni et en Italie, et d'ici la fin de l'année en Allemagne.
Et en bref, politique toujours, la nuit a encore été agitée à l'Assemblée. L'article 49.3 a d'ailleurs été activé pour la sixième fois par Elisabeth Borne pour faire passer une partie du budget de la sécurité sociale.
Direction l'Ukraine à présent, où 15 personnes ont été tuées hier à Kherson lors des bombardements russes.
Et ce matin, ce sont 6 millions d'Ukrainiens qui sont sans électricité. La faute aux frappes russes sur les installations énergétiques du pays. Vladimir Poutine qui assure que ce n'est pas terminé et que la Russie ira jusqu'au bout de son opération militaire spéciale. C'est ce qu'il a confié hier à des mères de soldats qu'il recevait au Kremlin, Mathieu Limongi.
C'est sur un ton grave que Vladimir Poutine s'est adressé aux 17 mères et épouses autour de la table dans une atmosphère solennelle. Il a notamment vanté les mérites des soldats au front.
Leur état d'esprit, leur force me surprennent. Et leur témoignage renforce ma conviction que ce sont des héros. Bien sûr, nous ferons tout ce que nous pourrons pour faire en sorte que vous ne vous sentiez pas oubliés et que vous soyez épaulés.
Mais certaines femmes ne décolèrent pas et accusent le pouvoir d'avoir sélectionné les participantes pour éviter toute question embarrassante. Une opération qui intervient à un moment où certaines voix dissidentes commencent à se faire entendre. Carole Grimaud est spécialiste de la Russie.
Je pense que le Kremlin va donner un petit peu pour finalement calmer ce mouvement-là, qui risquerait peut-être, s'il n'est pas suffisamment pris en compte et en considération, qui risquerait peut-être de rallier d'autres parties de la population, et notamment les manifestants anti-guerre qu'on a vus au début du conflit.
Et à deux jours de la fête des mères en Russie, l'événement était aussi attendu que médiatisé. Mais sur les deux heures de rencontre, seules 7 minutes ont été diffusées à la télévision russe.
Et puis Stéphane, la pilule a du mal à passer pour les victimes de la chlordécone.
Le parquet de Paris demande un non-lieu dans l'affaire du chlordécone aux Antilles, ce pesticide utilisé en Martinique ou en Guadeloupe jusqu'en 93, alors qu'il était interdit et qui est soupçonné d'avoir provoqué une vague de cancer. Plusieurs associations luttaient pour que l'État ait un rôle dans ces dysfonctionnements. Maître Marie Scopette milite sur la question du chlordécone à la Commission européenne.
La demande du parquet de Paris, elle est vraiment dans la continuité de cette politique coloniale où il y a un non-respect total d'une partie de la population française, c'est-à-dire cette partie de la population qui est issue des territoires pour eux coloniaux. Je pense que là, le peuple d'outre-mer va se réveiller parce que je pense que ça, c'est une insulte suprême. Si vous avez un déni de justice, vous générez une rébellion d'un peuple. Et ça, l'histoire nous l'a toujours démontré. Donc, il y a un moment où les représentants français, où le gouvernement français doit s'asseoir et doit octroyer à cette population ce à quoi elle a droit. Parce qu'on est face à un risque social démesuré.
RMC 7h34.
RMC, le journal des sports.
Les sports, c'est évidemment la Coupe du Monde. Stéphanie Roch, objectif 8e de finale. La France joue en effet sa qualification face au Danemark cet après-midi.
Les Bleus face à leur bête noire. Le Danemark reste sur 2 victoires face à la France. Une équipe difficile à manœuvrer, Nicolas Pelletier.
Le constat du sélectionneur Didier Deschamps sur l'équipe danoise est clair.
Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères, beaucoup de misères.
Des misères créées par la nouvelle bête noire des Bleus avec 2 défaites en 2 matchs cette année face aux Danois. Didier Deschamps compte bien s'appuyer sur ces rencontres pour inverser la tendance.
Évidemment, tout ce qu'il y a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe danoise qui a toujours cette capacité de changer de système et ça peut amener à des difficultés différentes.
Il faut remonter à l'Euro 2000 pour trouver trace d'une victoire française face aux Danois en compétition officielle. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, espère surtout corriger les petites erreurs du premier match contre l'Australie.
Ce sera un match décisif pour la qualification et on regarde un petit peu ce qui a été fait sur le premier match. Il y a beaucoup de travail à faire.
Que ça soit à l'Euro ou en Coupe du Monde, à chaque fois que les Bleus n'ont pas perdu face aux Danois, la France a gagné la compétition.
Ah, on verra rapidement si cette statistique se confirme ou pas cette année. En tout cas, les Danois se méfient de la force offensive de cette équipe de France et de sa pépite, Kylian Mbappé. Le sélectionneur Casper Juhlmann a analysé le jeu du Français.
Je ne pense pas qu'il faut avoir peur. On n'a pas de plan pour l'arrêter. Non, je rigole, on en a un. À Copenhague, on en avait un, je suis optimiste. On ne peut pas les calmer et les ralentir parfois. On a fait des analyses.
Et parmi les sélections, il y en a une qui est favorite et qui joue très gros ce soir. C'est l'Argentine d'un certain Lionel Messi.
Après le couac face à l'Arabie Saoudite, défaite surprise 2-1, l'Argentine joue déjà sa survie dans la compétition. Un match à haut risque face aux voisins mexicains, Florent Germain.
Oui, l'Argentine veut croire que cette défaite surprise contre l'Arabie Saoudite n'était en fait qu'un accident de parcours. L'Albicéleste joue très gros face au Mexique. L'attaquant Lautaro Martinez en est conscient.
On était tristes, touchés après la défaite contre l'Arabie Saoudite. Mais on doit se relever. Dans un mondial, on n'a pas le temps. Le Mexique est un rival difficile et c'est comme une finale. C'est très important pour notre futur. On doit gagner car le prestige de notre maillot l'exige.
Une défaite de l'Argentine serait un véritable coup de tonnerre, lourd de conséquences, selon Leonardo Paradiso, journaliste proche de la sélection.
L'Argentine joue bien plus que sa survie dans le mondial. Une élimination serait sûrement l'un des échecs les plus retentissants de l'histoire de notre football. Cela remettrait en cause l'avenir de Lionel Scaloni et évidemment, ce serait aussi la fin de l'époque Léo Messi en sélection.
Léo Messi et ses coéquipiers n'ont pas le choix. Ils seront soutenus ce soir au stade Lusail par plus de 35 000 supporters argentins.
Et puis en bref, la blessure du Brésilien Neymar face à la Serbie. L'attaquant du Paris Saint-Germain souffre d'une lésion ligamentaire à la cheville. Il est d'ores et déjà forfait pour le match de la Seleção. Ce sera lundi face à la Suisse. Et puis en résultat, celui du soir, celui du match de 20h, c'était l'Angleterre contre les États-Unis. Les deux sélections se sont neutralisées. Match nul, zéro partout.
Merci beaucoup Stéphanie Roch. À tout à l'heure, 8h en direct de Doha. Évidemment. En attendant, nous sommes en direct de la Seine-et-Marne. Bonjour Zaya.
Bonjour Zaya.
Bonjour.
Enchantée Zaya. Debout ce matin très tôt au boulot ?
Bientôt au boulot, oui.
Bientôt au boulot et à l'écoute d'RMC, devant le café. Zaya, vous avez bien raison. On posait cette question et je sais que c'est ça qui vous a fait appeler le 32-16 ce matin, cette question avant le journal de 7h30. Est-ce qu'on consomme trop en France avec cette semaine maintenant de Black Friday ?
Oui. On consomme beaucoup trop, et puis depuis des années. Moi, il y a des choses que je comprends pas. Même à aujourd'hui, on met en avant la sobriété énergétique, qu'il faut moins consommer, qu'on va droit dans le mur. Mais à côté de ça, on développe le Black Friday avec le marketing. On développe des plateformes comme Vinted. Moi, j'aime bien Vinted, c'est l'occasion. Mais ça incite à la consommation, finalement. On achète toujours autant pour remettre dans un circuit d'occasion, pour faire réacheter autant. On met toujours les gens dans un système de consommation. On pourrait plutôt se dire qu'on achète beaucoup moins, on use nos vêtements, on fait réparer au lieu de changer les portables.
100 milliards de vêtements produits par an, je le disais tout à l'heure. Bah oui. 100 milliards, c'est vertigineux. Comment vous faites, vous, Aya, pour échapper à cette surconsommation ?
J'utilise mes vêtements jusqu'à temps qu'ils soient usés. Et puis ensuite, on fait du tri. Quand il s'agit des affaires des enfants, on donne. Enfin, moi, je donne personnellement ou je fais suivre à mes frères et sœurs qui ont également des enfants en bas âge. Et on se passe les vêtements comme on faisait avant.
Donc, vous arrivez à ne pas vous laisser tenter ?
Non. Non, j'arrive à. Alors, effectivement, on a tous la frénésie des achats. On nous a habitués pendant des années à acheter à travers la communication, le marketing. Mais il faut, à un moment donné, se raisonner. Sinon, il n'y a pas de fin, c'est sans fin.
Zaya ?
Oui ?
Est-ce que, à l'écoute d'RMC, on est plus sobre ?
Non.
C'est une vaste question, ben oui Zaya. Et oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, comme vous le décrivez, dans toute la société, finalement, il y a cette consommation en permanence, dans les publicités qu'on reçoit. C'est tout un modèle à repenser.
C'est tout un modèle à repenser. On l'a connu dans les années 80. On achetait dans les braderies deux fois par an et terminé. Les soldes étaient des vrais soldes. On achetait. Aujourd'hui, on met en place d'autres stratégies pour toujours faire consommer les gens avec la seconde main, avec le déstockage. Mais c'est du faux déstockage. C'est de la fausse seconde main. Notamment dans le textile, dans les chaussures. Regardez les baskets aujourd'hui.
Proposez-nous autre chose. Voilà l'appel que vous lancez ce matin, Zaya. 32-16, on poursuit évidemment la discussion si vous le souhaitez. Un grand merci d'être passé avec nous.
Et bon week-end.
Bon week-end à vous aussi.
Salut Zaya, bon week-end à l'écoute d'RMC, 7h41. Allez, dans un instant.
Trois rouges, une noire, deux bleus, oui. Avant le vin chaud et la tartiflette.
Ah oui, ça c'est un beau programme. Les pistes de ski qui rouvrent et qui ouvrent à Val Thorens, c'est le coup d'envoi de la saison, malgré le peu de neige. Le président de l'association des maires de montagne, avec nous dans deux minutes sur RMC.
RMC. la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
8h moins le quart, soyez les bienvenus sur RMC. Le cliquetis des tire-fesses, le ronron des The Cabine. Allez, touche-ous dans une heure. Maintenant, les premières pistes de ski ouvrent au public.
L'invité du jour.
Jean-Luc Bock, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, maire de La Plagne, Tarentaise, président de l'association des maires de montagne. C'est donc Val Thorens qui ouvre le bal aujourd'hui. Viendront ensuite Val d'Isère, les deux Alpes, Courchevel, l'Alpe d'Huez, le week-end prochain. On avait tout à l'heure le président de l'office de tourisme de Serre Chevalier qui nous a appelé au 32-16, qui prévoit plutôt une ouverture retardée lui aussi, plutôt mi-décembre. Les réservations d'abord, à la hausse cette année.
Alors les réservations, c'est juste exceptionnel puisqu'on est à date, hein, bien entendu, à plus 7% par rapport à l'année N-1, l'année dernière, qui était une saison record. Donc on espère que ça va continuer, que ça va fonctionner. En tout cas, l'appétence du ski est bien présente, la motivation, l'envie, les clients réservent. Et ça, c'est extrêmement bien pour tout le monde.
Comment vous expliquez cette appétence à la hausse alors qu'il y a de moins en moins de neige ?
Alors, il y a de moins en moins de neige en tout début de saison, pour l'instant. Pour l'instant, on a un tout petit peu de retard à l'allumage, il y a un petit peu de retard au niveau de l'enneigement, mais elle est arrivée déjà. La semaine dernière, elle est tombée relativement en abondance, à très haute altitude. À moyenne altitude, elle arrive, et on sait très bien qu'elle va venir d'ici quelques jours. Donc, pas d'inquiétude, elle arrive.
Le fait qu'elle arrive quand même de plus en plus tard, qu'elle fonde aussi de plus en plus tôt, c'est une question, j'imagine, que vous avez en tête.
Bien entendu, on est obligé de s'adapter. C'est l'être humain qui doit s'adapter à ce bouleversement climatique et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, quelque part, c'est rassurant de savoir qu'on est prêt, qu'on fonctionne avec et que la neige de culture, elle est là pour sauvegarder les débuts et fin de saison. Et par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fin de saison, on a plutôt beaucoup de neige. On a un décalage, en fait, dans le temps avec ce bouleversement climatique qui fait que la neige arrive un tout petit peu plus tard au niveau de décembre, c'est-à-dire qu'elle arrive en règle générale au niveau des vacances de Noël. Par contre, au mois d'avril, il y a toujours beaucoup de neige en altitude et ça, c'est rassurant.
Comment les stations s'adaptent, Jean-Luc Bock, à ce réchauffement climatique, cet enneigement de plus en plus précaire, et puis la question de l'énergie aussi, cette hausse des factures cette année?
Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Comme je vous le disais, l'adaptation, on sait le faire. Les montagnards, c'est ça. Être dans une cordée, ça veut dire s'adapter à la personne qui a le plus de difficultés, la plus lente. Et ben, quand on a un petit décalage avec la neige, on s'adapte. On ouvre un tout petit peu plus tard. C'est ce qui a été fait pour les stations qui ouvraient habituellement aux alentours de mi-novembre. La neige naturelle n'étant pas là, ils ont pu fabriquer un peu de neige de culture. Mais en France, la différence par rapport aux Jeux Olympiques de Pékin, par exemple, c'est qu'avec simplement de la neige de culture, on s'interdit d'ouvrir, on ouvre avec une partie de neige naturelle et de neige de culture.
Neige Ensuite, de culture, ça veut dire quoi exactement? Comment vous fabriquez
Alors, la neige
cette
de
neige
culture, la neige de culture, c'est très simple, contrairement aux idées reçues de certaines personnes. C'est de l'eau, de l'air et du froid. Donc, il y a deux vecteurs qui sont commandés par l'être humain, le stockage, la restitution de l'eau avec de l'air. Et il nous faut un petit peu de froid parce que sinon on ne peut pas en fabriquer.
Mais cette eau, vous la ponctionnez?
Alors cette eau, on la récupère quasiment tout le temps au printemps quand elle est en surabondance. C'est-à-dire qu'au printemps, vous avez une grosse fonte des neiges. Cette fonte des neiges, elle alimente des petits ruisseaux, des petites rivières, des fleuves, et elle se jette dans la mer.
C'est on en capte
une infime partie, mais vraiment une infime partie qu'on stocke en altitude et qu'on restitue l'hiver d'après.
Y compris au printemps dernier, alors que la sécheresse était déjà là et que d'ailleurs des restrictions dues à la sécheresse sont encore en vigueur à ce jour dans certains départements.
Pas du tout. L'hiver dernier, le printemps dernier, on a eu une fonte des neiges comme d'habitude. Il faut jamais oublier que la montagne, c'est le réservoir d'eau potable de la France. Et donc, nos montagnes, elles restituent toujours de l'eau. Et cette eau, elle est vraiment en surabondance. C'est-à-dire que si elle était ultra utile en aval et indispensable en aval, on ne la capterait pas. Mais le fait d'en capter une infime partie, on parle d'un pourcentage qui est tellement infime qu'on n'arrive pas à donner un chiffre. Et le fait de la restituer en automne, ça veut dire que l'homme s'adapte à ce bouleversement climatique et non pas l'inverse.
On pourra continuer de skier encore pendant 40 ou 50 ans sans problème.
Oui, sans aucun problème. Toutes les études qui ont été émises, toutes celles qui sont en cours, qui s'adaptent, y compris le rapport du GIEC, montre que dans 40 ou 50 ans, on aura toujours de la neige en altitude.
Jean-Luc Bock, la difficulté cette année, c'est donc évidemment l'énergie. J'ai vu que dans les Pyrénées, par exemple, on va abaisser la vitesse des des télésièges, on va baisser la température dans certains bâtiments.
On l'a toujours fait, si vous voulez, abaisser la vitesse quand vous avez un moment avec une moindre fréquentation. C'est un de l'or invisible, complètement invisible en fait pour le skieur.
Puisque
si vous êtes en 4 mètres secondes, si vous êtes en 4 mètres secondes ou 3 mètres secondes, je vous défie de voir la différence.
Voilà, c'est 1 mètre cela... par seconde de moins, mais ça permet quand même de réduire la facture énergétique de 10%.
Exactement, et c'est pour ça que c'était déjà fait, hein. Les exploitants n'ont pas attendu la demande de l'État pour le faire, ils le faisaient, là on va encore un petit peu plus l'amplifier, et en intervacances, quand il y a moins besoin d'appareils de remontée mécanique, si deux appareils vont au même point, au même endroit, un des deux sera à l'arrêt. Donc, tout cela est organisé, prévu, et on va s'adapter à la demande.
Donc, aucune répercussion sur le prix des forfaits?
Non, le prix des forfaits, l'augmentation, on va pas dire qu'il n'y en a pas. Elle oscille entre 3 et 9%, mais c'est surtout le coût de l'inflation qui a été pris en compte. Et l'énergie, c'est là où il y a une petite différence. 40 à 50% des exploitants, donc des domaines skiables, avaient déjà un contrat prévu et qui finit fin 2023. Et ceux qui n'avaient pas de contrat sont en train d'en prendre ou en ont pris dernièrement à un prix beaucoup plus important. Mais quoi qu'il arrive, ils vont fonctionner. Et même si ça va impacter les comptes de résultats des exploitants, toutes les stations vont ouvrir, toutes les stations vont fonctionner cet hiver. La clientèle n'a pas à s'inquiéter, les stations seront ouvertes et ça va fonctionner.
Y compris la vôtre, La Plagne, ouverture, à quelle date?
Le 10 décembre, et en bien, quelques jours.
Eh bien, préparez-vous bien. Merci Jean-Luc Bock d'avoir été avec nous, président de l'association des maires de montagne, 7h51 sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
Objectif Lune et pourquoi pas un jour, objectif Mars.
En tout cas, ce sont les rêves de la Française Sophie Adnaud, astronaute de la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne, dans le portrait.ca dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Le portrait de Poincar.
C'est l'heure du ou de la personnalité qui a marqué l'actualité cette semaine. On part dans l'espace ce matin, Peggy.
Oui, avec celle qui a marqué l'actu. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Avec Sophie Adnaud, la nouvelle astronaute française.
Oui, au départ, ils étaient 22 000, exactement 22 523 candidats qui rêvaient de devenir astronaute. Et à l'arrivée, ils ne sont plus que 5 Européens, dont une Française. C'est la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne dévoilée cette semaine. La première depuis celle de 2009 avec Thomas Pesquet. Et c'est pour Sophie Adnaud un rêve de petite fille qui devient réalité. C'est avec ces mots qu'elle a commenté la nouvelle. Pour être choisie parmi de tant de candidats, il fallait un CV en béton et ça tombe bien, c'est le cas. Sophie Adnaud a fait une école d'ingénieur à Toulouse, puis elle a obtenu un diplôme au très prestigieux MIT américain, puis elle est entrée chez Airbus. Elle travaillait dans un bureau à la conception des cockpits d'hélicoptères, mais elle a alors décidé d'inverser l'équation, c'est-à-dire de faire des cockpits son bureau. Elle est donc entrée dans l'armée de l'air, elle est devenue pilote de sauvetage de combat, spécialiste en opérations en milieu hostile. Elle a été deux fois en mission en Afghanistan, elle a le grade de lieutenant-colonel. Et puis elle est ensuite devenue la première femme pilote d'essai sur hélicoptère. Elle cumule 3000 heures de vol sur 22 engins différents. Mais ça ne suffit pas. Pour devenir astronaute, il faut aussi être polyglotte. Elle parle le français, l'anglais, l'allemand, le russe et l'espagnol. Pour être astronaute, il faut aussi être sportif. Et ça tombe bien, elle est parachutiste, diplômée de plongée sous-marine, alpiniste et professeure certifiée de yoga. À 40 ans, elle est aussi mère de famille. Elle a un petit garçon.
Bon, ça suffit, ça s'arrête là ou oui, vous oui, en avez encore? Elle a rendu hommage à ses modèles lors de sa nomination.
Oui, Marie Curie, prix Nobel, franco-polonaise. Valérie André, médecin, première femme pilote d'hélico. Caroline Aigle, première femme pilote de chasse. Et bien sûr, Claudie Nuret, première et seule astronaute française jusqu'à présent. Sophie Adnaud avait 14 ans lorsque Claudie Nuret est allée dans l'espace pour la première fois. En attendant son tour, la nouvelle astronaute française va rejoindre le camp d'entraînement européen de Cologne en Allemagne au printemps prochain. Elle devrait ensuite faire un séjour dans la station spatiale internationale, sans doute autour de 2026. Et puis ensuite, tout est possible. Sophie Adnaud peut raisonnablement espérer un jour marcher sur la Lune.
Et pourquoi pas sur Mars? Mais oui, pourquoi pas? Merci Nicolas Poincaré, on retrouve votre portrait bien sûr en podcast sur l'appli RMC. Allez, l'info du jour, ou plutôt de l'après-midi, 17h tout à l'heure, France-Danemark, deuxième match des Bleus. Vous y croyez vous, Peggy?
Ah bah oui.
Non ?
Vous croyez à la qualification en huitième de finale dès ce soir ?
Ah bah oui !
Il faut une victoire obligatoire.
Mais on l'aura, la victoire.
On a posé la question à nos internautes sur le compte Twitter d'RMC. Pour le moment, c'est oui à 80%. Vous pouvez continuer de voter. On vous pose aussi la question au 32-16. Tout à l'heure, 8h40, on sera à Doha avec Jeannot Séguier, qui sera au commentaire ce soir, avec Jérôme Roten, avec vous, bien sûr. Et dans le journal de 8h, eh bien, on va regarder la compo. Les dernières infos de la Dream Team RMC Sport, de l'équipe d'RMC envoyée spéciale à Doha dans le journal.
Et vous, vous y croyez ?
Allez, oui. Oui, ça y est. Allez, on s'engage sur RMC. Allez, les Bleus.
RMC jusqu'à 9h.
La matinale week-end.